Radio Capi. Oh, Capi. Journal présenté par Lievin Mbwinga.
Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de l'actualité de ce lundi, enfin le calme à la prison centrale de Bounia après une journée agitée et pleine d'angoisse samedi. Des tirs de sommation des militaires ont permis aux détenus de regagner leurs cellules. Ils sont montés sur la toiture de cette maison carcérale pour crier famine. D'autres détails dans ce journal. C'est parti pour la reprise des cours ce lundi dans le Tanganyika après une semaine de retard. Le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques et le syndicat des enseignants de carrière suspendent leur grève. Pourquoi ce changement de position? Réponse avec le porte-parole de l'intersyndical des enseignants dans quelques minutes. Une nouvelle constitution pour la RDC, c'est en tout cas une proposition du professeur Placide Mabaka Mukwabuyika contenue dans son livre intitulé « Une nouvelle constitution pour un Congo restauré ». Il va nous dévoiler les idées fortes contenues dans cet ouvrage de 150 pages. Il est notre invité. Encore une fois, bonjour. Je le disais en titre, le calme est revenu ce dimanche à la prison centrale de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Ce, après un soulèvement des détenus samedi, qui, d'après des sources sur place, réclamaient leur ration alimentaire. Pour manifester leur mécontentement, ils sont montés sur la toiture de la prison en jetant des projectiles aux gardiens et scandant des chansons de révolte. Les militaires commis à la garde de cette maison pénitentiaire ont tiré des coups de sommation pour les disperser. Une situation qui a créé la panique dans la zone pendant une bonne partie de la journée. Le porte-parole de l'armée en Ituri pense qu'il s'agissait d'une manipulation des détenus pour les inciter à s'évader. Le lieutenant Jules Ngongo est joint au téléphone par Ezekiel Mouzalia.
D'après les informations que nous avons eues, il ne s'agissait pas de réclamer à manger comme certains le prétendent, mais il était question de manière consentie pour ces prisonniers de poser le même acte ce qui s'est passé à Kinshasa pour s'évader. Au sein de cette prison, il y a les anciens miliciens, les gens qui ont été arrêtés, les bandits, les criminels des grands chemins. Et voir ces jeunes gens s'évader, c'est fouler au sol les efforts de paix. Parce que la paix que nous cherchons ici à Ituri, c'est dans une approche globale. Pour le moment, nous avons maîtrisé cette situation et nous disons coup de chapeau à nos services d'avoir usé de leur professionnalisme. Et donc, nous avons compris qu'il s'agissait de la manipulation parce que si il s'agit de réclamer à manger, les voies sont légales. Ces jeunes gens ont été motivés par le manipulateur afin de réitérer l'acte qui s'est passé à Kinshasa, c'est saboter les efforts de paix afin qu'ils puissent donner un message, soit disant le pays est en insécurité ou le pays est menacé.
Une équipe des chirurgiens de l'hôpital militaire du camp Kokolo de Kinshasa au chevet des soldats blessés à Beni. Mission de cette délégation des médecins conduite par le commandant adjoint du corps de santé militaire en charge de la planification, études et techniques. Évaluer la prise en charge des soldats blessés au front dans cette partie du Nord Kivu. Écoutons les précisions du général Jean-Jacques Kapekaloumé. Il est au micro de la cellule de communication des FARDC dans cet extrait choisi par Grévis Salomon.
Je suis arrivé dans la garnison de Beni, particulièrement à l'hôpital militaire des garnisons. Ceci, c'est dans notre mission. Il est censé que nous puissions procéder à l'évaluation de la prise en charge des blessés de guerre. Nous n'allons pas nous limiter seulement à cette évaluation. Je m'étais fait accompagner d'une équipe d'appui de l'hôpital militaire central Kokolo pour prendre les quelques cas sélectionnés depuis hier. Donc nous allons beaucoup plus faire des interventions sur les os, les parties molles à pouvoir réparer et faire tout ce qui est nécessaire pour relever et récupérer le plus possible nos blessés. J'ai trouvé un personnel qui est au point. Qu'à cela ne tienne, si nous venons ne fût-ce qu'apporter une plus-value, donc l'équipe des chirurgiens et anesthésistes que j'ai ramenés va continuer à travailler de pair avec l'équipe qu'on a trouvée localement ici pour cette bonne prise en charge.
C'est parti enfin pour la reprise des cours ce lundi dans le Tanganyika après une semaine de retard. Le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques et le syndicat des enseignants de carrière suspendent leur grève. Décision prise après une réunion de deux syndicats des enseignants samedi à Kalemi. Confirmation du porte-parole de l'intersyndicale des enseignants dans le Tanganyika, Bruno Jibikilai, annonce cette reprise des activités scolaires dès ce lundi après une semaine de grève sèche. Il est joint par Paulin Munanga.
Après l'évaluation, nous avons constaté qu'il y a eu des avancées parce que les premiers enseignants dans la République ont déjà commencé à toucher la prime de gratuité qui était en principe l'une des revendications aussi pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Et la deuxième partie, c'est le paiement de l'ajout sur les salaires. Les fonds pour la paie complémentaire du mois d'août est déjà domicilié dans les comptes des opérateurs de paie. Donc nous avons pensé qu'il n'y avait plus d'objection pour pouvoir suspendre momentanément notre mouvement de grève. Nous allons évaluer encore l'évolution de la paye au courant de la semaine et nous allons encore nous retrouver samedi pour une nouvelle évaluation. Mais on précise que cette suspension, elle est momentanée et elle va permettre justement que nous puissions suivre l'évolution de la paye avec les opérateurs de paye. Et à partir de lundi, tous les enseignants membres du SINECAT et des SIC reprennent le chemin de service.
Puisque nous sommes dans le domaine de l'éducation, sachez que les relations entre l'Université de Lubumbashi et l'Université libre de Bruxelles sont au beau fixe. Pour preuve, les deux parties ont renouvelé leur coopération privilégiée. En même temps, l'Université de Lubumbashi a signé une convention de coopération avec l'Université de Mons en Belgique. La cérémonie a eu lieu jeudi dernier à l'Université de Lubumbashi. L'annonce a été faite par les responsables de ces trois universités lors d'une conférence de presse qu'ils ont co-animée vendredi. Quel est le bénéfice que toutes ces institutions tirent de ce partenariat ? Jean Gandou.
Pour Gilbert Fitoula, recteur de l'Université de Lubumbashi, ce partenariat est d'une importance capitale. Son institution s'inspire du modèle de ses autres universités, notamment dans la conception de l'université et société, de l'organisation de certains enseignements et facultés. Le cas de la proposition de créer la faculté de l'interprétariat ou le département des notariats à la faculté des droits. Au-delà de la mobilité des enseignants, ce partenariat est non seulement pas privilégié, mais aussi un privilège pour l'Université libre de Bruxelles et celle de Mons, a indiqué la rectrice de l'ULB. Pour Anne Miachos, à travers ce partenariat, il y a la mutualisation des efforts dans le domaine de la recherche.
Il y a des recherches qui sont effectuées ici par des équipes de l'ULB et de l'UNILU, ou de l'ULB, de l'UNILU et de l'Université de Mons, que nous ne pourrions pas faire en Belgique. Et donc c'est une richesse incroyable. Pour nos universités, ça nous apporte énormément. La faculté de pharmacie, on travaille en commun sur des plantes médicinales. Les collègues de l'UNILU apportent beaucoup à ces projets-là.
Quant à Philippe Dubois, recteur de l'Université de Mons, les universités ne doivent pas travailler en vase clos. Il faut privilégier les échanges d'expériences car la science est universelle et son impact sociétal est capital. Il faut donc une fertilisation des connaissances entre les uns et les autres et en consolider les acquis. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Cap sur le Congo central à présent, humanisation des services de maternité en milieu rural, une des recommandations des assises de Matadi entre le gouvernement et les partenaires du système des Nations Unies. Réunion qui a pris fin samedi dans cette ville portuaire, elle a porté sur la contribution des organisations féminines de la société civile pour l'amélioration des politiques publiques en faveur des femmes en RDC. Ces assises patronnées par le gouvernement avec l'appui des partenaires techniques et financiers du système des Nations Unies ont réuni une centaine de femmes. Karine Topé était sur place, suivait son reportage.
Ces associations ont réfléchi sur des mécanismes à mettre en place afin de renforcer leur contribution et accompagner le gouvernement dans l'amélioration des politiques publiques en faveur des femmes en RDC. Elles ont notamment réfléchi sur la question de la gratuité de l'enseignement et de la maternité, tout en félicitant le gouvernement pour cette initiative qui permet aux femmes de donner la vie sans se soucier des factures. Elles ont cependant souligné la nécessité de former le personnel soignant dans les services de maternité afin de réduire les cas de mortalité solidarité maternelle. Un plaidoyer pour la mise à disposition des kits d'accouchement dans les hôpitaux publics en milieu rural a été lancé, ainsi que celui de l'humanisation des services de maternité et la rémunération du personnel soignant. Les participantes ont aussi évoqué la question de la gratuité de l'enseignement qui permet aux filles d'être scolarisées au même titre que les garçons, mais ont recommandé à l'État congolais de construire des écoles publiques pour faire face à l'afflux des élèves. Ces femmes recommandent également au gouvernement de prendre en charge la scolarité des enfants nés en prison et qui continuent d'y vivre avec leur mère sans se rendre à l'école. Matadi, Karine Topé, Radio Okapi.
L'eau potable, une denrée de plus en plus rare dans plusieurs quartiers de la ville de Mbujimayi, et cela dure depuis presque une semaine à la base. Des problèmes de manque d'énergie qui ont perturbé la desserte en eau potable, explique la régie des eaux. Elle rassure aussi avoir réparé les pannes survenues sur ces machines dans le but de mettre fin à cette crise d'eau potable. Entre-temps, le spectacle est désolant. Des femmes ménagères sont vues sillonnant plusieurs artères à la recherche de cette liquide précieuse. Le bidon d'eau de 20 litres, par exemple, qui se vendait il y a une semaine à 500 francs congolais, a doublé de prix et revient actuellement à 1000 francs. Et puis ce drame, 13 morts sur la rivière Kibali dans la province du Haut-Uele. Les victimes se sont noyées au moment de la traversée sur une barque de fortune. L'accident s'est produit dans la matinée d'hier dimanche. Plus inquiétant encore, le nombre de passagers à bord de cette embarcation reste indéterminé, faute de manifeste. Regrette d'ailleurs le caucus des députés provinciaux de Ouattara. L'embarcation quittait cette contrée pour la cité minière de Durba. D'autres détails avec Jacques Mokonkole.
D'après des témoins, le trafic entre Ouattara et Durba est intense en raison des diverses activités lucratives que la population exerce dans la cité minière. Le pont s'étant effondré depuis plus d'une année, la population préfère prendre n'importe quelle embarcation pourvu qu'elle arrive à destination, déclare un membre de la société civile locale. Le nombre de passagers à bord reste indéterminé. Faute de manifeste, regrette le caucus des députés provinciaux de Ouattara qui avance un bilan de 13 morts et plusieurs rescapés dans un communiqué de presse. Selon le même document, le bilan officiel n'est pas encore établi ni publié suite au manque de manifeste établi par l'armateur et validé préalablement par les services publics attitrés. Concernant la cause de ce drame, la députée provinciale élue de Ouattara, Françoise Azarokani, pense qu'il serait causé par des vagues de la rivière Kibali en crue à cause de la fréquence des pluies pendant cette période. Dans le même communiqué publié à Isiro, le caucus de députés provinciaux de Ouattara recommande au gouvernement provincial de diligenter une enquête en vue de déterminer les responsabilités et éventuellement sanctionner les coupables. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Santé, la province du Congo central compte son tout premier cas confirmé de monkeypox. Elle relève en même temps 85 cas suspects. Ces malades présentant des symptômes de la variole de singe, notamment des éruptions cutanées, fièvre, ont été enregistrés dans 16 zones de santé sur les 31 que compte le Congo central. Le ministre provincial de la Santé qui l'annonce appelle la population à l'observance des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Docteur Ovid Yobila rassure que le gouvernement provincial et la division provinciale de la Santé travaillent avec détermination pour mettre en place urgemment un plan de riposte contre cette épidémie.
Actualité internationale.
21 personnes ont été tuées hier dimanche dans des tirs imputés aux paramilitaires sur un marché de Sennar dans le sud-est du Soudan au lendemain du rejet par les dirigeants du pays d'une force indépendante pour protéger les civils. Le réseau des médecins soudanais a en outre fait état de plus de 70 personnes blessées dans cette attaque qu'il a attribué aux forces de soutien rapide, les paramilitaires aux ordres du général Mohamed Hamdan Daglo qui combattent contre l'armée du général Abdel Fattah al-Bourhane. Et puis un phénomène climatique exceptionnel touche le Maroc. De fortes pluies accompagnées de crues et inondations ont fait au moins 11 morts depuis vendredi 6 septembre sur 17 régions et provinces du Maroc. Donc certaines habituellement semi-arides, ces intempéries ont fait 11 morts dont 7 dans la province de Tata à 740 km au sud-est de Rabat, 2 à Tiznit et 2 à Erakidia, dont un des nationalités étrangères non précisées, a indiqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Rachid El Khalfi, selon un bilan provisoire.
L'invité.
Une nouvelle constitution pour un Congo restauré, c'est l'intitulé d'un livre de 150 pages publié par le professeur Placide Mabaka Mukwabuyika, docteur en sciences juridiques et habilité à diriger des recherches de l'université de Lille en France. Avocat, il est chargé des cours à l'université du Kwango, il est invité de Radio Kapi. Il nous parle des idées fortes contenues dans son livre qui propose une nouvelle constitution pour le pays. Professeur Placide Mabaka s'entretient avec Jeff Ngoy.
Professeur Placide Mabaka, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeff Ngoy.
Vous avez publié un livre de 150 pages, publié aux éditions Espérance. Et ce livre est intitulé « Une nouvelle constitution pour un Congo restauré ». Quelles sont les idées forces de votre projet de constitution pour la 4e République que vous proposez ?
Moi, mes idées forces tournent autour d'une seule idée, je dirais. C'est la restauration de notre identité. Et la restauration de notre identité, c'est par rapport déjà à la dénomination du pays. Et pour savoir si on est Congolais, ou pas qu'on dit qui êtes-vous, je suis Congolais, mais souvent on demande de quel Congo, ou de Congo Brazza. On est obligé de préciser qu'on est Congolais démocratique soi-disant. Or déjà une république c'est démocratique, une démocratie c'est foncièrement une république d'un point de vue philosophique, donc cette dénomination n'a pas de pertinence, et pour nous distinguer, parce que l'identité c'est un élément essentiel qui nous singularise, hein. Quand on est dans une même famille, nous avons le même patronyme, mais il y a le poste-nom et les prénoms qui nous distinguent les uns des autres, tout en ayant le même patronyme. Et nous, par rapport au Congo-Brazzaville, nous pouvons nous appeler Congo-Kinshasa, par rapport à la capitale, comme c'était le Congo-Léopoldville. Aujourd'hui, j'ai évolué un peu dans ma réflexion, et d'un point de vue symbolique, d'un point de vue spirituel, je propose plutôt, pour sceller un peu nos liens avec nos ancêtres, qu'on dénomme notre pays, c'est Congo, avec K, Congo di Kimbangu. Pourquoi ? Parce que Kimbangu, c'est un symbole de libération d'un point de vue à la fois matériel et spirituel de ce pays.
Qu'est-ce que cela a à voir avec le bien fondé de votre projet pour le pays ?
Le nom détermine notre destin, pour ne pas dire notre destinée. Et je pense que lorsque un enfant naît, on ne le nomme pas n'importe comment. Lorsqu'on le nomme, on lui accorde une mission. On lui donne aussi une force d'un point de vue spirituel, de façon visible et invisible. Donc la dénomination d'un pays est très très importante. Que symbolise République démocratique du Congo ? Ça symbolise quoi ? Que ce soit d'un point de vue idéologique, philosophique ou spirituel. Ça n'a aucun sens. Nous devons bien nous identifier. Nous devons nous singulariser par rapport à d'autres. Lorsqu'on était sur le Zaïre sans être nostalgique, mais on savait qui était un Zaïrois. Mais aujourd'hui, un Congolais, on ne sait pas ce qu'il est. Et d'ailleurs, depuis qu'on s'appelle République démocratique du Congo, on a vu que le pays a regressé. Le pays a beaucoup regressé au lieu de progresser. Donc on doit s'interroger sur le fait de savoir si cette dénomination ne nous apporte pas, si vous permettez, la poisse. Il y a aussi les armoiries. Les armoiries sont très symboliques. Et c'est pour ça que j'ai mis les anciennes armoiries, d'où la restauration un Congo restauré. Nous devons restaurer nos armoiries.
Pourquoi voulez-vous une nouvelle constitution alors que le pays est instable plusieurs fois, en a connu beaucoup, et l'actuelle, celle du 18 février 2006, semble meilleure, selon de nombreux constitutionnalistes, mais vous la qualifiez d'une constitution risquée et à risque.
Oui, je respecte la position de mes autres collègues, mais moi j'ai toujours combattu cette constitution avant même son adoption. Ce que je qualifie de risqué et à risque, c'est avéré être réel. Pourquoi ? Parce que la naissance même de la constitution du 18 février 2006, c'est une mauvaise naissance. Le point de départ est mauvais, parce que cette constitution n'est pas une constitution des Congolais ou pour les Congolais. Ce sont les belligérants, parce que c'est Sun City, c'est au dialogue inter-congolais que tout cela a été déterminé.
Une constitution qui nous a été imposée de l'extérieur.
Oui, moi j'appelle ça une constitution octroyée.
Des belligérants.
Exact, des belligérants, c'est octroyé.
À la page 41, vous affirmez que les conflits communautaires de Malembankoulou dans la province du Haut-Lomami, ceux opposant les Teke et les Yaka dans le Maï-Nombé, ou encore les Katangé et Kassayens dans le Haut-Katanga, sont des tragédies provoquées par la conception ethniciste de la nature juridique de l'État. Comment le justifiez-vous ?
Alors, et ça c'est le gros problème du Congo justement, d'où la restauration. Nous étions sous le Zaïre un État foncièrement unitaire, qui n'était pas vraiment décentralisé, on va dire plus ou moins centralisé, un peu déconcentré, mais qui ne l'était pas tellement. On voit qu'elle fait ça de ça centralisé. Mobutu a échoué parce qu'il n'a pas mis en place la décentralisation et une bonne déconcentration. Mais nous étions unis et indivisibles. Moi, je suis des Kenge, je pouvais me retrouver à Lubumbashi, j'étais Zaïrois. Mais aujourd'hui, j'ai la chance quand même de sillonner ce pays. Récemment, j'étais à Lubumbashi. J'entends, entre Katangé, je vais pas loin, les Katangé qui sont devenus certains Tanganyika, du Lualaba, du Haut-Katanga, ou Olomami. Ceux, c'est les Bemba, je crois, hein, qui sont majoritaires à Lubumbashi. Aujourd'hui, qualifient le Rund, par exemple, du Lualaba, de non-Katangé. Ils doivent rentrer chez eux ou à Lualaba, Kolwezi. Imaginez.
Merci, professeur.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, ainsi se termine ce journal. Merci à Alain Irung, à Jude Bilanda et à Polydor Basunga. Je vous retrouve dans moins d'une heure.